Bonjour Katie Stewart, bienvenue à la tribune des Vagabonds du rêve pour qu'on puisse présenter et discuter de
Stewart.
ton roman L'Évangile selon Myriam qui vient de sortir chez Mnemos. Donc c'est un livre très récent, hein. Il a eu un mois,
À
enfin
moi.
un mois de publication, des mois de travail. Et donc, je voudrais qu'on échange autour de ce livre, de ton écriture et puis de la littérature telle que tu la pratiques et telle que tu l'aimes. Voilà. Donc, je vais te laisser te présenter parce que tu as quand même maintenant derrière toi, beaucoup d'écritures, de publications, et tu fais beaucoup d'autres choses. Donc, je te laisse présenter dans cette espèce de bouquet dont tu as envie de parler en ce moment, ce que tu veux nous dire de toi. Et après, on passera à l'Évangile selon Myriam. Donc, à toi.
Bonjour, donc je suis effectivement Katie Stewart et je suis autrice principalement de science-fiction, si on compte le nombre de publications, mais j'ai commencé par de la poésie et je suis publiée depuis 2003, donc ça va bientôt faire 20 ans.
Ah oui.
Donc oui, j'écris et ça n'est pas ça qui me fait manger. Puisque j'ai exercé plusieurs professions, j'ai été conseillère principale d'éducation pendant 15 ans et depuis 2 ans, je suis psychologue clinicienne et je suis également doctorante en psychologie et je travaille sur les approches narratives dans le soin. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je chante, j'aime chanter, mais je ne chante plus suffisamment assez. Je suis formatrice en secourisme, mais je ne fais pas de formation en ce moment. Voilà, j'anime des ateliers d'écriture assez régulièrement maintenant, donc pas mal d'ateliers d'écriture de science-fiction orientés futur, donc pour des publics vraiment variés.
Donc, ça, c'est ce que tu nous dis aujourd'hui de toi.
Oui, je
Voilà.
dis toujours des pans entiers
Voilà.
de ce que je fais parce que je ne tiens pas vraiment de comptabilité de ce que je fais. J'essaye pour mon CV, mais c'est vrai que c'est dans l'action que je me sens bien. Donc voilà, la liste de ce que je fais, oui, j'ai fait d'autres choses et j'en ferai d'autres.
Est-ce que je peux te demander ce que tu faisais à Amsterdam il y a 2 jours encore, même pas?
Oui, ah, désolée, j'ai oublié. Alors, à Amsterdam, alors déjà, j'y suis allée pour un festival qui s'appelle All the Futures, qui est organisé par Brigitte van der Sande, je ne sais pas le dire, Brigitte qui est membre de l'association dont je suis la présidente, qui s'appelle Réseau Université de la Pluralité. Donc, effectivement, ça fait partie des choses qui m'occupent pas mal, mais qui sont tellement en lien avec le fait que j'écrive et le fait que je réfléchis sur les récits que c'est vrai que je ne pense pas forcément à le dire. Sachant qu'en ce moment, un de nos gros projets, c'est Narratopia. Donc, Narratopia qui s'intéresse aux récits transformateurs et aux nouveaux récits. Donc, il y a comme une évidence à y
Oui,
être.
tout à fait, surtout que ton écriture est aussi très riche et très, très variée et elle évolue constamment. J'imagine que ça t'aide aussi dans cette démarche
D'être dans
de
Upus.
narratopia. Oui, où ça
Oui,
apporte.
alors en fait c'est complémentaire, c'est vraiment complémentaire et c'est vrai que je me retrouve avec des personnes qui réfléchissent sur la notion de récit et qui se posent des questions sur l'impact des récits et ça permet de prendre du recul sur ce que je fais moi-même et de l'enrichir après. Voilà. Et j'apporte aussi finalement ma connaissance de la science-fiction dans nos discussions, donc il y a quelque chose d'une évidence effectivement.
Et voilà, donc du coup, on revient à Myriam, à l'Évangile donc selon Myriam. C'est un roman, hein. Quand on le lit, on est un peu étonné, mais c'est un roman. Et c'est un roman dont je vais dire quelques mots pour l'introduire. Et après, on parlera je pense qu'on ne peut pas utiliser le terme fabrication
Oui,
pour ce genre de récit-là.
c'est pas un sale mot, non.
Non, non, c'est quelque chose d'assez intéressant même. Donc, on a Myriam, c'est l'héroïne de ce texte, qui, d'après ce qu'on comprend en arrière-plan, fait partie d'une communauté qui s'est réfugiée à l'extérieur des villes en période de crise et qui fait, dont le fonctionnement, cette communauté, fait penser un peu à des survivalistes mystiques, si on parle très rapidement, hein, et, mais où chaque individu a une utilité qui est finalement pratique. Qu'est-ce qu'il apporte comme compétence pour que ce groupe de personnes puisse survivre, mais bête, enfin, au premier sens du terme, vivre techniquement, comment manger, comment s'habiller, etc. Et cette personne, comme elle n'a aucune utilité pratique, hein, malgré le fait qu'ils aient quitté une société un peu matérialiste, ben finalement, ça reste ce matérialisme. Finalement, elle arrive à se sauver, du moins dans la première partie, elle arrive à se sauver en devenant ce que j'appellerais une mémoriste. Elle va à la recherche de textes écrits ou qu'on lui relit, mais qui ont été écrits, et elle en fait cet évangile. Voilà, et donc je m'arrête là pour pas trop déflorer le sujet, mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du projet en sachant, enfin, en essayant de voir comment tu as construit un texte, ce qu'il y a dedans, et finalement comment tu as réussi à lui donner ce corps. C'est un texte qui est dynamique, je peux le dire, on n'y s'ennuie jamais, il est poétique, mais il n'y a pas de description, c'est vraiment. C'est les situations. Il y a des grands, je dirais qu'il y a des mises en scène. Il y a vraiment des vieux contes ou même des scènes de la Bible qui sont mises en scène. C'est vraiment un travail presque de cinéaste ou de théâtre. Donc voilà, je te donne la parole pour que tu nous en dises un peu plus que ce que je viens de dire, quoi.
Alors, si la question c'est la fabrication, je n'ai fait que reproduire sur le papier ce que je fais dans la vie et ce que j'ai l'impression de voir tout le monde faire. C'est-à-dire qu'on vit entouré de récits qui nous tissent, qui nous font voir le monde d'une manière ou d'une autre. Et à un moment, enfin moi j'ai toujours fait ça, gamine, d'essayer de voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que c'est cette histoire? De quoi on parle quand on fait référence à ça? Alors ça, je le cherchais souvent dans les expressions qu'on emploie tous les jours, qui sont souvent des expressions qui sont issues de contes ou qui sont issues d'histoires qu'on a complètement oubliées, mais il reste des expressions qui nous rappellent des choses. Donc, il y a vraiment l'idée d'aller regarder ce que sont ces récits qui nous fabriquent et ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est la première étape. L'autre façon de voir ça, c'est le travail que je faisais quand j'étais gamine, que j'ai appris à faire avec mon père, puisqu'il écrivait des sermons.
Ah oui.
Et ouais, ça sort pas de nulle part. En fait, écrire un sermon, c'est interroger des vieux textes pour voir ce qu'ils nous disent aujourd'hui. C'est le principe de l'exégèse, plutôt l'exégèse juive d'ailleurs, hein, qui tient pas forcément à être prise dans un contexte ancien, mais c'est vraiment réinterpréter aujourd'hui ce qui est écrit pour voir ce que ça nous donne comme réponse pour nos problèmes d'aujourd'hui. Donc tout ça un peu mélangé, ça me paraissait normal d'aller récupérer des textes existants. Je sais que je suis capable d'inventer des histoires.
Oui, tout à fait.
Mais quand on invente une histoire, souvent c'est une relecture de quelque chose existant. Parfois c'est un peu nouveau parce que l'angle est différent, mais là c'est vraiment assumé. Les références sont là, elles sont données. Je ne fais pas semblant de redécouvrir le petit chaperon rouge. Non, je vais aller le voir et essayer de trouver le petit interstice où les choses ne sont pas dites. Clairement, ou sont dites de manière ambiguë, et le retourner pour voir ce que je peux raconter de différent là-dessus, ce que je peux raconter de nouveau et qui s'inscrivent dans le thème qui m'intéressait, qui est le mensonge et la vérité. Donc, c'est un travail de patchwork, en fait. Choisir les bons morceaux, les coller
Oui.
ensemble, qu'ils s'accordent quand même un peu. Enfin, oui, il y a vraiment quelque chose du travail de patchwork là-dedans.
et qui donne un tableau d'ensemble à la fin, parce que tu parlais de mosaïque.
Oui. Oui, c'est tous ces mots-là, mosaïque, puzzle, patchwork. Ce qui est intéressant, ce n'est pas d'avoir le focus sur les petits bouts, c'est vraiment de voir ce que l'ensemble donne. Si mon patchwork ne fait pas une bonne couverture chaude, ça ne sert à rien.
Et coloré pour
Oui, avec des couleurs
les
différentes,
différents.
effectivement, c'est le but. Ouais.
Et d'ailleurs, si on file l'image jusqu'au bout, on ne choisit pas n'importe quel morceau parce que c'est
Ah
des
non.
tissus qu'on a depuis longtemps, donc qui ont déjà une vie finalement.
C'est ça.
Et on refait encore quelque chose avec des choses que, oui, c'est tout à fait. Donc c'est en
Oui, j'aime
fait,
bien
c'est
cette
ce que tu as
image-là.
fait, ouais.
Oui.
C'est ce que tu as fait finalement.
C'est ça.
Et effectivement, tu as réinterrogé des textes anciens, qui sont aussi bien des textes religieux que des textes de contes traditionnels. Il y a aussi de la littérature dedans. Tu as convoqué même Ray Bradbury. Et en fait, tout, effectivement, c'est comment on voit les choses, quoi. Mais on en reparlera peut-être plus tard quand on parlera de la vérité, puisque c'est quelque chose, c'est une expression qui revient, un mot qui revient dans le texte assez régulièrement, avec des
J'aimerais ajouter
situations.
quelque chose
Et
parce
je t'en prie.
qu'il me vient soudain un souvenir, parce que je sais que ce procédé-là n'est pas du tout nouveau pour moi. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et je repense à un texte qui s'appelle L'écran bleu de la mort, qui est dans une anthologie gratuite qui est sur le site ActuSF. Mais je vais essayer d'en refaire quelque chose de ce texte-là. C'est un texte écrit à partir d'erreurs système Windows.
Oui, et alors?
Et un assemblage d'erreurs système Windows et de citations de discours de Nicolas Sarkozy.
Oui, effectivement.
Et ça raconte une histoire de virus,
De
de virus
virus.
dans un système, et donc tout ce qui est fait pour essayer de comprendre ce qu'est ce virus et de lutter contre ce virus. Et en fait, effectivement, il y a des mots de moi dans ce texte, il y a peut-être 10% du texte et tout le reste, c'est comment j'assemble ces erreurs système qui, avec leur langage très poétique, finissent par dire quelque chose par la polysémie des termes qui sont aussi des termes qu'on utilise tous les jours. Le périphérique, ça a un sens en informatique, ça a aussi un sens quand on habite Paris, par exemple.
Oui, tout à fait.
Donc, voilà, je pense que c'est l'exemple le plus proche de cette façon de faire, en fait. L'écran bleu de la mort. Oui.
Donc, il y a quelque chose qui reste, un courant qui reste derrière tout ton travail finalement et qui se développe et qui mûrit parce que tu es parti d'une nouvelle et en fait, maintenant, tu nous fais un roman.
Ah ben, c'est parce que tu
Non, je veux dire.
hiérarchises nouvelle et roman. Je trouve que la nouvelle est plus réussie dans ce sens-là que le roman, parce qu'il y a beaucoup plus de moi, finalement, dans l'Évangile selon Myriam que dans l'écran bleu de la mort. Et pour moi, c'est un échec de ne pas avoir juste réussi à
Qu'est-ce qui est un
coller des choses
échec?
existantes, de devoir mettre beaucoup de colle. Si on reste
Dans
sur la mosaïque, j'ai mis énormément de colle pour que ça colle l'évangile selon Myriam, alors que l'écran bleu de la mort, tout le travail, c'est la minutie des choix, des erreurs système et quoi avant quoi et à quel moment et voilà.
Ah oui, mais là, dans l'Évangile selon Myriam, tu te coltines pas avec un seul ordinateur, tu te coltines avec, si j'ose
Oui,
dire,
c'est vrai.
l'histoire de l'humanité. Il faut
Oui,
peut-être beaucoup de
c'est
colle,
peut-être un système un peu
voilà,
plus compliqué.
plus complexe et plus difficile peut-être. Ben, puisqu'on est là-dedans, est-ce que on avait parlé de ce qu'on pourrait faire, enfin ce qu'on s'était proposé, c'est que tu nous lises des passages.
Oui.
Parce que c'est vrai que c'est un livre qui est tellement, tellement différent de ce qu'on lit d'habitude, justement, que ça serait bien de donner un petit goût, quoi. Donc, si tu veux lire un passage.
Oui, je vais lire un passage de Petit Prophète choisi pour toi, Dounia, puisque tu m'as dit
Merci.
que tu
Ah,
aimais
oui.
beaucoup cette partie-là.
Oui, je le confirme.
Alors, devant, c'était le mensonge intelligible. est derrière l'incompréhensible vérité. Milan Kundera. Jonas n'a pas envie, pas cette fois. Il marche, mais traîne la patte. Prophétiser, c'est son métier. Seulement, petit prophète, c'est moins respectable que prévu. Le petit prophète est celui qui arrive dans une ville en disant « Votre conduite a offensé le Créateur. À moins que vous ne changiez votre comportement, vous mourrez. » Il y met toute sa conviction parce que ses mots viennent du Tout-Puissant. Les gens l'entendent, les gens s'effraient et s'efforcent de modifier leur vie. Alors, Dieu prend pitié et les épargne. Croit-il davantage? On n'en sait rien. Ils réagissent vraisemblablement par peur et, sans le mériter, ils échappent à la colère divine et l'annonce du prophète ne se réalise pas. Jonas voudrait pouvoir se tenir face à des Thomas sceptiques auxquels il n'opposerait que des faits. Regardez, j'ai dit destruction et la destruction survient. J'ai crié châtiment et la foudre s'abat. Il déteste porter un message variable, une promesse de sanction qui soit conditionnelle. Il veut la fermeté et sans doute possible. Il veut être crédible pour donner à croire. Il veut impressionner et forcer l'incrédule parce que lui aussi, vraisemblablement, est incrédule. Un prophète dont les prophéties ne se réalisent pas, est-il encore un prophète? Non. Jonas ne veut pas aller à Ninive. C'est toujours la même histoire. À la fin, qui est humilié publiquement? Dieu est compatissant, mais assez peu effrayant finalement. A-t-il seulement, juste une fois, détruit des villes pour faire éclater sa puissance? Ou alors ça doit dater de plusieurs siècles? À quoi bon avertir les gens du pire si c'est pour les laisser vivre ensuite? Si j'étais Dieu, soupira Jonas. Tout en réfléchissant, il est arrivé au port. Il est décidé à fuir, mais il sent que rentrer chez lui n'est pas une bonne idée. Dieu lui tomberait dessus aussitôt pour lui demander de reprendre la route. Vous allez où? À droite, départ pour Tarsis dans un quart d'heure. Ah, parfait, Tarsis alors. Eh bien, pressez-vous. Jonas embarque dans un bateau avec d'autres passagers dont il ne désire rien savoir. S'intéresser à eux l'exposerait au risque qu'on l'interroge. Vous faites quoi dans la vie? Prophète déserteur. Il s'installe et s'enfonce aussitôt le départ donné dans ses pensées, poursuivant son raisonnement et tâchant de se convaincre lui-même qu'il a pris la bonne décision.
C'est toujours aussi magique. C'est toujours aussi magique prophète révolté. C'est très contemporain parce que les mots ne sont absolument pas des archaïques ou c'est des expressions. Et justement, on avait dit que c'était aussi les textes à l'aune, si je peux dire, de la période.
Oui, c'est ça.
Post-apocalyptique.
En fait... Ouais. Et je pense qu'il y aurait une erreur à considérer qu'on peut lire un texte ancien en se mettant dans l'état d'esprit du texte ancien. Enfin, c'est mission impossible. Donc là, effectivement, c'est assumé.
Voilà, et ça, et c'est réussi. Alors, dans tous ces personnages, il y a bien sûr un personnage qui revient parce que en fait, c'est aussi la jeunesse que tu revisites et que Myriam retrouve. Il y a un personnage qui apparaît tout au début et qui est finalement le personnage le plus récurrent, qui s'appelle Alphonse, qui est quelqu'un qu'il vaut mieux éviter parce que c'est...
Ah, je ne sais pas.
Voilà, donc peux-tu nous parler de ce personnage?
Alors, il y a des gens qui l'aiment bien, apparemment, parmi les lecteurs.
Les lecteurs.
Alphonse... Alors déjà, on va dire que c'est la colle. Je parlais de colle tout à l'heure.
Oui.
Le fait qu'il traverse le livre permet aussi de faire du lien entre ce qui précède et ce qui va suivre. Donc, il joue ce rôle-là de passeur d'une histoire à l'autre. Et en fait, j'ai voulu condenser dans un seul personnage tout un tas de choses, notamment la personne fataliste, la personne qui sait, la personne qui connaît l'histoire. Et je crois qu'on a tous autour de nous et un peu en nous, ce personnage qui va nous empêcher de prendre des risques parce qu'on sait comment ça va se terminer. Celui qui va nous empêcher d'imaginer autre chose. Alors, ce n'est pas tout à fait Margaret Thatcher disant qu'il n'y a pas d'alternative, mais il y a quelque chose de ça, en fait. Il va incarner le poids de la crise, par exemple, le poids des difficultés qu'on traverse, et il n'a pas tort. Mais enfin, ce n'est pas lui qui va incarner le mouvement, quoi. Et j'avais besoin, en fait, à côté de réflexions sur la vérité, le mensonge et aussi sur la fiction, parce que c'est ce qui se cache un peu là-dedans, d'avoir celui qui dit non, celui qui est un peu pesant et qu'on a parfois en nous, voilà, qui nous empêche, celui qui a essayé de m'empêcher de me réveiller ce matin tôt pour faire ce que j'avais à faire en me disant, ouais, allez, à quoi bon? On sait comment ça se termine. Oh, ben, qu'est-ce que ça change? Voilà.
C'est l'aquaboniste de la
Oui,
chanson.
c'est ça.
Et du coup, c'est vrai qu'il apparaît dans des situations où, comme par exemple dans La Belle au bois dormant, tout au début du conte, il apparaît et en fait, il prend une mesure, une dimension qui en fait n'existe pas quand tu lis le texte
Ah, en
d'origine,
fait,
quoi. Donc c'est
il y a la fée Carabosse.
oui, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'elle fait, la fée Carabosse, dans La Belle au bois dormant? Elle vient remettre de la fatalité dans une histoire qui s'annonce merveilleuse.
Oui. Oui, effectivement. J'avais oublié la fée Carabosse.
Bah, en
En
fait,
fait, on retient la fin du conte plus
il n'y
que
a pas de
le
Belle au bois dormant s'il n'y a pas de fée
début.
Carabosse. Hein.
Oui.
Donc, je pars du principe qu'il y a toujours un Alphonse. Il faut juste le trouver.
Et le fuir. Mais on peut
Peut-être
pas.
discuter avec lui, mais tu le fuis, lui il est là. Tu traverses la pièce, il t'attend de l'autre côté parce qu'il est là.
Et donc, en fait, ça donne aussi une dimension fantastique au texte parce qu'il est toujours là et c'est un peu cet aspect de, oui, oui, la fatalité dans le premier sens du terme. Donc, Alphonse qu'on va laisser et on va passer à un autre aspect qui est très, très, très intéressant aussi, dont on sur lequel je voudrais qu'on discute, dont on voudrait qu'on discute, pardon, c'est la place de la victime dans ton roman. Parce que vu les histoires qui se racontent, il y en a pratiquement à chaque chapitre. Donc, qu'est-ce que c'est que si tu peux nous en parler? Alors, tu peux citer, je pense au Petit Poucet, à Tama, c'est une princesse
Tamar,
dans
oui.
la Tamar, pardon, j'ai dit Tama. Donc, si tu pouvais
Alors, en fait, la question m'en dit plus long sur toi que sur moi.
oui, mais
Parce que
c'est du livre qu'on va parler quand même.
finalement, c'est un aspect qui t'a interpellé. Après, quand on raconte des histoires, on a souvent des rapports de force, on a souvent. Enfin, il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est vrai que souvent, ce qui se passe, c'est que quelqu'un est spolié d'une manière ou d'une autre. Et alors, je connais, je sais ce que c'est d'être spolié, je sais ce que c'est d'être une victime. Allez, on va dire du système, mais aussi bah, d'une famille, victime d'agression, etc. Et en fait, je considère qu'il est important, en première étape, de reconnaître le statut d'une victime quand il y a spoliation, mais que ça doit être une étape qui permette de faire quelque chose après. Et j'ai souvent vu des... des situations dans lesquelles, alors peut-être que je suis trop impatiente et qu'il faut du temps, mais j'ai vu quand même beaucoup de situations dans lesquelles, une fois reconnu le statut de victime, ça doit devenir une étiquette à vie. On a essayé de me coller l'étiquette, oui, j'ai été victime d'abus sexuels dans mon enfance. Oui, bon, ben voilà, je suis là. Et je ne suis pas que ça, heureusement. Et je fais d'autres choses et j'estime m'en être sortie. Et c'est vrai que je peux paraître un peu dure. Je peux paraître un peu dure vis-à-vis des personnes qui vivent des situations difficiles parce que mon regard va vite se porter sur et après. Ok, très bien. Ça n'est pas juste. Ça n'est pas normal. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est juste dire ça n'est pas juste et faire des concours de ben moi c'est moins juste que toi et moi c'est encore pire et voilà je suis finie à vie. Il y a aussi cette espèce de légende qu'une fois qu'on a été souillée, notamment pour les femmes qui sont violées ou des choses comme ça, on est souillée à vie, on est terminée, on porte une malédiction à vie. Et ça, effectivement, je lutte contre ça. Et les victimes qui sont citées dans mes textes, effectivement, il va toujours y avoir. Alors, tu me dis que elles sont un peu traitées comme si c'était un peu de leur faute. Il y aura toujours un contrepoint quand même. C'est-à-dire que les petits chevreaux qui, effectivement, sont bêtes comme leurs pieds, et
Oui.
n'écoutent pas et ne réfléchissent pas et vont se jeter dans la gueule du loup, ben, il y a quand même le petit qui s'en sort. Il y en a quand même un qui s'en sort.
Oui,
Alors, l'histoire de
c'est...
Tamar, effectivement, c'est pas joli, joli. Elle est agressée et c'est elle qui prend. Bon, son agresseur, il finit quand même par mourir. Et la façon dont je le raconte, il me semble, alors tu me diras si je me trompe, que ça laisse la possibilité que les choses se passent autrement. Ça met la lumière sur ce qui fait dans sa société que ça se passe comme ça, en ouvrant la petite porte de bah, si c'était aujourd'hui, peut-être que ça serait différent. C'est pointer le mécanisme qui fait que bah non, ce n'est pas une fatalité et non, ce n'est pas Alphonse qui décide. Et à un moment, on peut décider que bah oui, effectivement, tous les paramètres sont là pour que sa vie soit gâchée, que ce soit un échec et qu'elle meure. Mais il y a toujours cette possibilité de faire autrement.
Si, bah, c'est l'intérêt de tes textes, hein, c'est justement ce questionnement, effectivement, mais c'est aussi le regard de celui qui n'est pas dupe. Si on prend le petit poucet, c'est et pourquoi ils reviennent la première fois et pourquoi la deuxième fois ils font encore confiance à leurs parents, et c'est ça, et puis avec parfois un peu un humour noir grinçant qui fait la beauté du texte aussi. C'est pas, et ça peut pas ne pas frapper le lecteur, s'il a un peu d'empathie pour les personnages quand même.
Oui,
Voilà.
effectivement, ça, c'est aussi le genre de question que je me posais gamine.
Voilà.
C'est tes parents ont essayé de t'abandonner une première fois, bah, je sais pas moi.
Puis tous, oui.
Peut-être tu peux essayer de, je sais pas, trouver autre chose, trouver un autre endroit. Pourquoi tu vas croire que ça va mieux se passer?
Voilà. Et pourquoi tu reviens à la fin avec les trésors? Donc c'est vrai que c'est ce côté, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est ce petit côté, je questionne, c'est, je dirais, ce double petit poucet qui est là et qui est en train de dire à son au petit poucet, est-ce que vraiment
Ouais, tu pourrais pas faire mieux,
réfléchis un peu, voilà,
là?
réfléchis un peu, tu voilà. Donc c'était ça, cet aspect. C'est vrai que, comme de toute manière, c'est une période dans le roman qui est une période difficile, donc les textes sur lesquels qu'ils ont récupéré, parce qu'il y a ça aussi, ceux qui restent, parce que c'est pas des textes choisis, c'est on a pris tout ce qu'on a pu trouver qui a échappé à la destruction. Et on essaye de reconstruire une culture, une mémoire avec. Et l'humour aussi, c'est ce qu'il est resté, ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Donc, bon, là, il y a l'auteur derrière.
Oui, mais
Donc.
en fait, je peux même aller plus loin dans cette histoire de patchwork. Moi, ma vie, elle est faite comme ça. Je me suis refabriquée avec ce que j'ai trouvé, quoi.
Oui,
Donc,
donc il y a une, oui, il y a une, comment on dit, une métaphore quelque part
ouais.
aussi. Alors, est-ce que tu peux nous lire un texte maintenant, un peu dans cette veine de fatalité, j'ai pensé à frérocité. On va lire un passage.
Alors,
Alors, c'est la page 49 pour ceux qui ont la chance d'avoir le livre. Mais toi, tu l'as.
Oui, je l'ai.
Moi aussi.
Heureusement. La jalousie occupe l'esprit encore plus complètement qu'un travail intellectuel passionné. L'esprit n'a plus une seconde de loisir. Celui qui est en proie à la jalousie ignore l'ennui. Milan Kundera. Bien qu'aussi jumeaux que les trois paires de frères de Poucet, Jacob et Ésaü se ressemblaient peu. Tout s'était passé comme si, durant le temps de leur gestation, ils s'étaient partagés patiemment des particularités opposées. Yin et Yang, noir et blanc, or et plomb. Jacob avait gardé les caractères les plus fréquemment attribués à la féminité. D'où casanier, il craignait les conflits et cultivait la diplomatie. Ésaü, plus brutal, parlait peu et partait souvent dans les bois pour chasser ou se promener. Jacob aimait la compagnie des gens, des femmes en particulier, et de sa mère avant tout. Son frère, lui, ne se sentait bien que tout seul. Ils auraient pu grandir dans l'harmonie, se complétant l'un l'autre, mais ce que possédait l'un, l'autre le lui enviait. Ésaü jalousait la sympathie naturelle de Jacob, qui aurait, lui, opté pour l'indépendance et la puissance physique qui lui faisait défaut. Un jour qu'Ésaü rentrait, harassé, d'une de ses expéditions viriles, il perçut, en se rapprochant du camp familial, le fumet irrésistible d'une marmite de lentilles. Il n'avait rien mangé depuis la veille au soir et la simple idée de pouvoir déguster sans attendre une assiette de son plat préféré le faisait saliver. Le cuistot à l'origine de la tentation n'était autre que son jumeau, Jacob. « Hé Jacob, serre-moi, je te prie, de ces succulentes lentilles », lança-t-il en arrivant à sa portée. L'un disposait des lentilles, l'autre non. Ésaü convoitait à ce moment-là l'avantage de Jacob qui lui demanda « Tu veux de ces lentilles, vraiment ?» Plus que tout au monde. Si je t'en donne, je gagne quoi? Ce que tu veux, dis et tu l'auras. Ésaü aurait-il pu imaginer la réponse de son frère? Sans doute, oui, s'il avait réfléchi quelques secondes à leur rivalité permanente. Jacob acceptait de céder son privilège temporaire, mais seulement contre un autre avantage qu'avait son jumeau sur lui. Combien de fois avait-il évoqué ensemble les règles de la succession? Combien de fois Jacob s'était-il insurgé contre ces lois qu'il trouvait arbitraires? Ésaü aurait dû se rappeler les incessantes manœuvres de son frère pour s'emparer de ceux qui, dans une famille comme la leur, représentaient l'honneur le plus précieux. « Tu me céderais ton doigt d'aînesse ?» Encouragé par sa mère Rebecca, Jacob enviait le privilège réservé à Ésaü d'hériter du domaine de son père par son simple statut d'aîné. Elle avait eu une vision qui confirmait le sentiment de Jacob d'être taillé pour un destin exceptionnel. Existait-il plusieurs façons d'arriver au résultat entrevu dans la promesse divine? Le plan passait-il obligatoirement par les manigances de Jacob et de Rebecca?
Voilà, et on revient toujours à réfléchir un peu à ta situation avant d'agir.
C'est ça, tu avais les moyens de savoir voilà. Ce qui allait se passer.
Alors là, je voudrais bien qu'on fasse un petit bond dans autre chose, parce que tu cites à chaque fois en entrée de presque tous tes chapitres, soit Stefan Zweig, soit Milan Kundera, qui ne sont pas des écrivains de SF, en tout cas, je ne pense pas.
Officiellement.
Pas officiellement, en tout cas. Et quand je t'en ai parlé, tu m'as dit, je les aime énormément, et que tu
C'est
les
vrai.
Avais beaucoup lus, les deux à la même époque. Alors, j'aimerais que tu nous en parles, par rapport à ce qu'ils sont pour toi et par rapport à ce que tu en as fait dans ce livre.
Alors, en fait, effectivement, ce sont deux auteurs que j'ai lus. Alors, ça fait un moment que j'ai lu, que j'ai découvert, je pense, en même temps et que j'aime beaucoup. Bah, déjà parce qu'ils écrivent des textes assez courts. Pour moi, c'est une qualité. Je sais que ce n'est pas forcément partagé, mais pour moi, c'est une qualité de pouvoir dire des choses en peu de mots. Et j'ai remarqué, en les lisant, en comparant, sans le faire de manière méthodique, hein, qu'il y avait chez Stéphane Zweig quelque chose de dense, de serré, d'un peu lourd. Le style est un peu lourd, les phrases sont longues, les mots sont choisis, mais on sent qu'ils sont choisis un par un pour porter le plus de sens possible. Et c'est quelque chose d'une écriture courte, mais resserrée et presque étouffante, si on va dans certains textes où vraiment il y a beaucoup, 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 beaucoup d'informations qui sont données dans quelques lignes. Alors que Kundera, c'est quelque chose de plus aéré. Alors, je pense aussi qu'il y a quelque chose de la mise en page qui joue, hein, parce que quand on lit un de ses romans, on sent que on a essayé d'étaler, quoi. En tout cas, c'est aéré et il laisse la place au lecteur de compléter. Et donc, chez les deux, il y a vraiment cette idée d'avoir des mots choisis et polysémiques, mais ils sont très très lourds chez Zweig et très très légers chez Kundera. Je ne sais pas comment le dire autrement, je n'ai pas étudié la littérature, donc je n'ai peut-être pas le vocabulaire qui va avec ça. Mais en tout cas, pour moi, ils sont tous les deux à deux extrémités du spectre de l'écriture courte. Et mon idéal, ça serait d'être entre les deux. Quelque chose de cet équilibre-là, où le lecteur trouverait sa place, mais j'ai ce souci de choisir les mots les plus justes et les plus précis possibles. Donc, je me retrouve un peu dans un mélange des deux.
Oui, c'est effectivement dans ta méthode d'écriture, tu écris, tu réécris, tu lis à voix haute
Oui.
tes textes. C'est ce que tu nous avais expliqué quand tu avais t'étais passé à Nice Fiction l'année dernière, donc pas celui-là. Et effectivement, c'est un travail qui t'a aussi amené à apprendre à écrire aux gens aussi. Puis quelque part, ton métier actuel, c'est une forme de réécriture aussi et
Alors,
d'écriture.
je travaille sur les approches narratives. Donc, effectivement, j'ai un de mes dispositifs qui consiste à aider les gens à réécrire leur histoire de vie. La démarche, elle est autre. Hein, c'est-à-dire que le souci que je vais avoir pour le choix des mots et que ça sonne bien, je ne l'ai pas du tout quand j'anime un atelier d'écriture. Ce qui m'intéresse quand j'anime un atelier d'écriture, c'est que la personne trouve sa propre voie et pas d'apprendre ma façon que j'ai bricolée toute seule, que eux aient les pistes et les éléments pour bricoler aussi leur propre façon d'être en écriture. Donc, je suis exigeante sur ces points-là pour moi, mais pas nécessairement en atelier d'écriture. Je cherche surtout des dispositifs qui me permettent d'être en retrait, d'encourager les personnes à être qui elles sont et à être en retrait. Donc, la démarche est autre.
D'accord. Alors, tu m'avais parlé aussi, pour finir sur ces deux écrivains, sur la fascination des citations et que
Oui,
tu aurais voulu devenir autrice de citations.
effectivement, quand j'étais petite, je ne savais pas que les citations étaient très souvent des extraits de textes plus longs. Je trouvais ça extrêmement fascinant d'avoir des petits bouts de phrases qui disent tant de choses. Et j'imaginais qu'il y avait des gens dont c'était le travail. Alors, il y a des livres de maximes, hein, qui existent, je pense aux maximes de La Rochefoucauld. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et la plupart des citations qu'on a, c'est des extraits de texte. Donc, je pensais qu'on pouvait devenir écrivain de citations. Donc, c'était mon rêve. Je n'ai pas renoncé totalement à ce rêve. Il se pourrait qu'un jour, je décide de publier des citations qui seraient vraiment que des citations, enfin, pas des citations du coup,
Ben
des textes courts, des dictons, des maximes. Écrite exprès pour être dans ce livre-là. Alors, je pense aussi que ça vient de la fréquentation des versets de la Bible, hein, Le lien, il est là, il est encore là. Quand j'étais petite, on apprenait des versets sans forcément aller chercher dans quelle histoire ils se trouvaient. Alors, on finissait par savoir, hein, parce qu'on était censé avoir lu la Bible je ne sais combien de fois. Donc, on finissait par les retrouver, mais c'était la surprise en lisant de retrouver un copain verset, en fait.
Au milieu d'un texte,
C'est ça. Ah,
oui,
mais c'est ça!
je le connaissais.
Oui, et donc, et puis je me dis que finalement, des gens ont déjà dit les choses tellement joliment, je préfère leur rendre hommage que d'essayer maladroitement de faire 10 phrases pour dire ce qu'ils ont réussi à condenser en deux.
Après, est-ce que ces auteurs, pour le coup, que dont on a parlé, sont, mais là on ne sait pas, il faudrait faire une étude littéraire ou peut-être statistique. Est-ce qu'ils sont, ils n'écrivent que pour citer? Non, je pense qu'ils que c'est des choses qu'on a sorties de leur
Non, bah
texte
oui,
finalement.
clairement,
Donc
oui.
voilà. Donc et on en a fait. Il y avait, c'était comme une petite histoire dans la grande quelque part, enfin dans la grande, la longue histoire
Tu parles de
qu'ils
quel
peuvent.
texte?
Je parle de toujours de. Je suis revenue à Milan Kundera et Stefan
Alors,
Zweig, puisque c'est d'eux qu'on
les
parlait au
textes
départ.
qui sont là sont extraits de livres dont une partie se trouve dans la bibliothèque ici,
Voilà,
juste là.
et qui sont tous cités à la fin du roman.
Oui,
D'ailleurs, moi, je suis allée regarder.
oui,
Même
oui.
il y a de la musique, il y a des chansons. On ne va pas tout leur dire, hein, il faut qu'ils aillent lire le livre. Donc on peut les retrouver et chantonner ou fredonner, parce qu'il y a aussi de très belles chansons.
S'amuser aussi à regarder quel était le contexte, parce qu'on accuse très souvent les personnes de sortir des phrases de leur contexte pour leur faire dire autre chose. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait.
Ah, ça.
Y a des histoires autour de ces textes-là et ça prend un autre sens.
Tout à fait, ça illustre, ça ouvre, c'est comme un rideau qui ouvre quelque chose sur une histoire. Et on va revenir à ton texte et j'aimerais
Attends, j'ai
bien.
une question pour toi. Est-ce que tu as chantonné?
Non, je n'ai pas chantonné parce que, mais j'aimerais bien trouver la musique des textes, mais je chercherai après. Je chercherai. Je regarde qu'est-ce qu'il y avait comme texte, comme musique. Il y avait surtout des musiques, des textes en anglais.
Oui.
Il y avait, comment il s'appelle,
Il y avait
celui
beaucoup de
qui...
Michael Jackson, en
Voilà,
fait.
Michael Jackson, voilà, je ne retrouvais pas son nom. Et souvent, les textes comme ça sont... On voit leur beauté une fois qu'ils sont sortis finalement de leur cadre musical, si je peux dire. Cité, ça fait comme des petits poèmes, et comme c'est plus rythmé qu'un poème, c'est sûr, on peut chantonner. Mais je chantonnerai la prochaine fois.
Eh bien, le
Ben
rendez-vous est pris.
voilà, tu te débrouilleras avec ma voix. Alors, je vais revenir à l'écriture. Et on parle beaucoup de vérité dans le roman. Et quand on a un peu échangé autour, tu m'as dit que c'était en fait... plus une démarche donc en tant qu'écrivaine et autrice sur les différentes facettes que peut être ce qu'on appelle la vérité. Est-ce que tu peux nous redire
Oui.
un peu plus là-dessus?
Alors, je peux, comme on a commencé à parler de moi et de ma vie, on va un tout petit peu rester là-dessus. La question de la vérité me fascine depuis gamine, puisqu'il y avait une injonction à dire la vérité. D'ailleurs, il y a eu une rencontre que j'ai faite avec Fran Basile, qui est une très chouette personne, très chouette écrivaine, chez Doctrice, où on a parlé de mensonges et vérités, justement, à travers nos textes. Donc, c'était. Toute une discussion uniquement sur ce thème-là. Donc, c'est intéressant à revoir. Et donc, dire la vérité, à partir du moment où on a envie de bien faire et de dire la vérité, on se heurte très vite à la difficulté de savoir ce qui est la vérité. Est-ce que la vérité, c'est ce que je perçois avec la conscience qui me manque des éléments? Est-ce qu'il faut passer son temps à chercher les éléments qui manquent? Est-ce qu'il faut tenir compte du point de vue de l'autre qui ne voit pas les choses exactement pareil? Voilà, il y a plein de questions. Quand on a envie d'être fidèle à cette chose, on se rend très vite compte que ça n'est pas monolithique et que ça n'est pas un repère fiable. et que la vérité est multiple, et j'avais envie d'explorer ça. C'est un prétexte aussi à explorer des relations entre les gens, parce que cette question de la vérité est souvent mise au cœur d'une relation. On aime cet ami parce que cet ami nous dit la vérité. On se marie à quelqu'un et on est supposé dire toujours la vérité. Enfin, il y a quelque chose comme ça, et sans jamais définir ce qu'on entend par là. Ce qui donne une démarche de manœuvre, ce qui donne des malentendus, ce qui donne des déceptions, parce que voilà. Et j'ai trouvé intéressant de retrouver un peu dans la Bible et puis d'autres textes, en fait, les contes qui sont censés receler une vérité universelle, la Bible qui est censée nous dire une vérité. Voilà. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Et qu'est-ce qui pourrait en rester dans un contexte post-apocalyptique?
Ah oui, ça, c'est une question à laquelle on ne pourra pas répondre simplement, hein,
Et je ne suis pas sûre d'avoir
rapidement.
répondu, hein.
Voilà.
C'était vraiment comme une visite touristique au pays de la vérité.
Oui, c'est ce que tu nous disais, c'est ce qui a été écrit. Pour Myriam, en tout cas, c'est ce qui a été écrit qui est la
Oui.
vérité, en fait. C'est là, à son époque, il y a si peu d'écrits que ça ne peut être que, entre guillemets, la vérité. C'est... Eh ben, on va finir là sur une lecture, encore une dernière lecture. C'est la lecture du texte Mensonge, qui est donc page 91. Tu pouvais nous en lire un petit passage.
Ça fait drôle de dire la page quand même.
Et oui, hein, c'est bah, c'est un livre, c'est
C'est
un
ça.
texte, et il a des pages.
Prenez votre livre à la page 91.
Des mensonges.
Alors, le mensonge commence avec une insatisfaction. On n'aime pas les faits tels qu'ils s'imposent à soi, alors on les maquille pour les énoncer mieux, ou on les dissimule pour les faire ignorer. On ment pour modifier le paysage, mais surtout pour obtenir d'autrui quelque chose qu'a priori, d'après les calculs du menteur, on n'aurait pas pu recevoir en s'en tenant à la vérité. On ment aussi pour protéger son monde, pour s'accrocher à une stabilité factice, pour échapper à une réalité dérangeante, s'inventer un statut, mentir sur son identité, tricher sur son apparence. On ment pour épargner à autrui la déconvenue dont on a fait les frais. Non, nous ne sommes pas parfaits. Non, le monde n'est pas absolument beau. On se ment à soi également pour acheter à sa conscience une paix relative en se formulant autrement le récit qui ne convenait pas. Le mensonge est le raccourci qu'empruntent ceux qui voudraient changer le monde, même partiellement, et qui ne peuvent pas, qui ne souhaitent pas ou qui n'osent pas s'en donner les moyens. Le mensonge, qui est venu aux humains avec la maîtrise du langage, est cette faculté qui permet de déformer la réalité, de raconter des histoires, d'en créer d'autres de toutes pièces pour mieux comprendre, mieux investir, voire mieux supporter la vie de tous les jours. L'idée de transformer le plomb en or plutôt que se donner le mal de devenir un chercheur d'or, le désir de découvrir un remède contre la maladie et contre la mort qui nous guette, un remède universel de préférence, un élixir prêt à avaler. L'envie de saisir l'essence des éléments et d'accéder au pouvoir de tout modifier en échappant aux lois communes. Tout cela se trouve mêlé dans la tentation de l'alchimie. Fiction et alchimie sont de fait intimement liées. Et je m'arrête là.
Oui, parce que on va laisser le lecteur avancer tout seul maintenant qu'on l'a accompagné. Et pour terminer sur notre entretien que j'ai beaucoup apprécié, j'aimerais bien que tu nous parles de tes projets. L'écrivaine Katie Stewart n'est sûrement pas inactive en ce moment.
Non, mais en fait, c'est extrêmement difficile comme question
Projet
parce
littéraire,
que,
d'écriture.
oui, mais alors pour les projets d'écriture, j'en ai toujours plein en cours. Là, devant moi, à un endroit que vous ne voyez pas, j'ai ma liste de projets que j'ai notés en début 2021 et je me suis arrêtée à 20. Dans les 20 projets,
Oui.
il y en a qui sont... Ah, bah, le premier, c'était l'Évangile selon Myriam.
Bon, bah, c'est
Donc, ça...
déjà ça, d'arriver à la liste, on peut le lire. C'est pour ça que tu nous as
Voilà.
donné à lire, donc c'est bien.
Donc, je vous ai aussi parlé de... La dernière fois, chez Nice Fiction, donc avec toi, Dounia, de Maille à l'envers, qu'on a écrit
Oui.
avec Nicole. Et donc, il y a du travail qui est fait dessus en ce moment pour que ça devienne quelque chose. J'ai des recueils de nouvelles qui sont en lecture, d'autres qui sont en retravail. Donc, il y a des choses qui vont se passer aussi de ce côté-là, côté recueil de nouvelles. Littérature générale, bah, j'ai toujours la suite de Noir sur Blanc. Chromatisme qui est prête et je manque de temps pour m'en occuper, mais l'idée est de faire revivre Noir sur Blanc et de faire vivre Chromatisme. Et puis j'ai des choses, donc un manuscrit que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps sur l'imposture, donc on est toujours sur la vérité et le
Oui,
mensonge,
toujours, on tourne, on
mais
s'en éloigne jamais.
différemment. Voilà, donc ça c'est terminé. J'ai des choses à finir. La biographie romancée de ma grand-mère qui s'appelle Fille de personne pour l'instant
Ah
et qui n'est
oui.
pas terminée, mais je pense que ça va prendre un peu de temps parce que ça demande.
Oui,
C'est
c'est...
très, très, très prenant émotionnellement d'écrire. Donc j'en fais un petit peu, je laisse tomber pendant des mois, j'y reviens, mais ça avance bien. J'ai quoi d'autre? Je suis en train de regarder. Enfin voilà, plein de choses. Et puis des textes, j'ai des commandes de nouvelles qui viennent comme ça au fur et à mesure sans que je cherche. Quand ça m'intéresse, je dis oui. Donc des participations à des anthologies ou des commandes par des professionnels. Des gens qui travaillent sur des thèmes et qui ont envie d'avoir un texte de science-fiction. Quand le thème m'intéresse et que ça colle avec mon travail, ben j'y vais. Et puis j'ai toujours le projet d'écrire des textes dans l'univers que j'ai créé. C'est rare que je crée un univers, mais j'en ai créé un pour l'anthologie Marmite et Micro-ondes, centrée sur la nourriture. Et j'ai plein d'idées de textes à mettre là-dedans. Donc je finirai bien par le faire un jour.
Oui, la liste. Mais on peut te lire. En plus de ça, tu écris quand même, je pense à Twitter.
Oui,
Tu
alors il y
peux
a
nous parler de ça.
Writeever,
Voilà.
oui, Writeever. Voilà ce que j'ai oublié en présentation. Au début, je suis quand même la créatrice et animatrice de Writeever, donc le défi littéraire en un tweet sur Twitter. Qui consiste à écrire donc tous ensemble avec un mot-clé par jour une histoire de science-fiction qui tient en un tweet. Et on a même le droit de tricher en faisant des feuilletons ou en inventant des règles nouvelles. Et donc le mot d'aujourd'hui, c'était absurde.
Ah
Et en ce moment, on
oui.
est sur une liste qui est ma liste, donc la première que je fais depuis un an qu'on existe.
Oui, parce que tu avais commencé, mais
Oui, j'ai fait la
explique-nous
pro.
comment,
Alors,
voilà, comment tu as
donc en
passé.
novembre 2020, j'avais fait une première liste, l'idée étant de prolonger la magie de Writeover, qui était une invention, enfin pas une invention, mais en tout cas la liste Writeover que j'avais suivie était celle de Nanochimère, donc Marion Sabourdi. J'avais tellement aimé y être que j'ai voulu prolonger en me disant, on verra combien de temps ça tient, on verra combien de gens viendront avec moi. Et dès novembre, on était une quinzaine à écrire. Là, on aussi, on est monté jusqu'à 100
Ah
sur
oui.
la liste de mars. On tourne autour d'une cinquantaine. Alors, on peine à décoller en anglais, puisque maintenant, on écrit en anglais et en français.
Ah oui.
Et on a des listes un peu difficiles, comme la liste sur l'astrophysique qu'on a eue au mois d'octobre, proposé
D'accord.
par Franck Celsis, et on a
Ah
tous pleuré, et je me mets dans le lot.
oui. Des cours de astrophysique avant.
Mais c'est passionnant parce
Oui.
qu'effectivement, on est avec des mots, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça peut être? Alors, soit on invente, soit on essaie de comprendre ce que c'est et de l'appliquer. Donc, mais c'était dur. Là, on est sur une liste un peu facile, qui est la liste des mots-clés de mon travail d'écriture. Donc, c'est un peu plus reposant.
Facile pour toi.
Non, mais c'est des mots de tous les jours.
Allez.
C'est pas anstrophie, c'est pas sigigi, voilà, c'est
C'est
pas des.
absurde.
Oui, aujourd'hui, c'est absurde.
Absurde.
Après, on a eu vérité, par exemple.
Ah oui.
Ouais.
Et quand même, ça ne te quitte pas.
Non, c'est vraiment. J'ai regardé, en fait, ce que j'avais écrit et je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça serait le mot-clé? Et j'ai fait une liste de 30.
On va aller voir ça. Donc, c'est sur Twitter. Et
Oui.
tu es sur à quel nom de Twitter, si des
Alors,
lecteurs
je
de t'en suivent?
m'appelle Catastrophe, donc ça s'écrit pas comme ça se dit, mais on peut retrouver Writeever, il suffit d'écrire hashtag write comme écrire ever, on me retrouve, et puis il y a les robots maintenant qui donnent un coup de main pour retweeter tout ça, donc il y a Bob, Writeever Bob.
Bob le... Il y a un
Et le,
robot,
et,
oui.
oui, c'est un robot.
Un robot,
C'est un robot.
oui.
Et Jenny, pour la partie anglaise. Donc, si vous êtes anglophone, vous avez envie de travailler votre anglais, si vous êtes prof d'anglais, que vous avez envie de faire travailler vos
Ah
élèves,
oui.
par exemple, ça marche plutôt bien. Moi, j'ai retrouvé une aisance un peu
À rédiger en
à
anglais.
rédiger en anglais. Mon anglais était très, très rouillé. Bon, là, il n'est pas parfait, mais j'ai beaucoup plus de facilité. Je fais moins d'erreurs et les idées me viennent directement en anglais. Donc, je conseille.
Ben alors, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Kitty, de nous avoir d'avoir discuté avec nous de tout surtout de l'Évangile, donc selon Myriam, que j'invite vraiment les personnes qui nous suivent à lire et à recommander, hein. Il y a peut-être que le mois de l'imaginaire est passé, mais il y en a un autre qui arrive, qui est le mois de Noël. Donc, ça ferait un très beau cadeau, surtout que c'est un très beau livre, c'est un très bel objet. Le papier est confortable, voilà, tu peux le montrer.
Alors,
Voilà.
les petits post-it ne sont pas inclus, mais on peut
Non,
les mettre
faut les
soi-même.
acheter, voilà, si on a retenu. Et voilà, donc, et puis, donc, je rappelle l'Évangile selon Myriam et de Katie Stewart et chez Mnemos, qui est un éditeur donc d'imaginaire. Et puis, bon, ben, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir sur la littérature, en tout cas. Et puis, je te remercie vraiment, parce que chaque fois qu'on a une rencontre, c'est fascinant, c'est passionnant. Voilà. Donc, je dis au revoir et puis au revoir à tout le monde.
Merci, au revoir.
Au revoir, à bientôt.